on est en train de découvrir que les impacts des changements climatiques, ça va être pas mal plus compliqué.
Bon mardi, on est en plein été, on n'a peut-être pas le goût d'y penser, mais dans moins de 3 semaines, on sera en élection au Québec. La campagne doit être déclenchée au plus tard à la fin du mois d'août. Toute la province sera encore une fois tapissée de pancartes électorales, oui. Mais en attendant, bien, ces jours-ci, les partis multiplient les annonces de candidatures. Seulement aujourd'hui, la CAQ a dévoilé 2 nouvelles candidates dans Laval-des-Rapides et Saguenay. Les libéraux ont annoncé que l'ancien maire de Coudjouac portera leur couleur dans Ungava. Et on apprend que Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma Place au Travail, sera candidate pour Québec solidaire dans Rivière-du-Loup-Témiscouata. Et ça, c'est juste aujourd'hui. Pour en parler de cette pré-campagne, on a Yves Boisvert, notre collaborateur sur le plateau. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Donc, ça doit être déclenché ces élections-là avant le 29 août.
Oui.
Mais on voit que tous les partis sont pas prêts au même niveau, là.
Non. Écoute, les libéraux en ce moment ont seulement 70 candidats choisis sur 125. Ah. Alors, il en reste 55. Le Parti québécois n'en a même pas la moitié. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces qui s'en viennent. La CAQ, c'est presque réglé, mais il reste encore quelques gros noms, dont Martine Biron, probablement mercredi. Et Québec solidaire aussi, c'est à peu près réglé.
Il y en a qui craignent que cette domination de la CAQ et cette hyper-préparation fassent même disparaître certains partis, puissent menacer la survie de certains partis.
Bien, en ce moment, là, à part de Pascal Bérubé, le Parti québécois n'a pas beaucoup de sièges sûrs, lui qui est à Matane. Ils sont entre 8 et 10 % dans les sondages. C'est une zone vraiment critique. Les libéraux, je pense pas qu'ils vont disparaître, mais disons qu'ils sont réduits à peu près à l'île de Montréal. La machine de la CAQ avance là, comme un rouleau compresseur sur le territoire. Et on le voit par leur présence dans la publicité, on le voit par les annonces qui se multiplient. François Legault n'a pas l'intention de ne pas profiter de cette occasion là, pour vraiment faire un balayage.
Et on voit que le PQ, les libéraux ont de la difficulté à faire passer leur message, à avoir de l'attention médiatique. Au contraire, les conservateurs, eux, en ont pas mal. Comment est-ce que tu expliques ça? C'est quoi leur recette?
Bien, c'est-à-dire, d'abord, Éric Duhaime, c'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art de faire parler de lui par des lignes spectaculaires. Aussi, c'est une nouveauté. Hein? Le Parti québécois, le Parti libéral, c'est de la vieille nouvelle. Donc, le Parti conservateur, ils ont été dans la controverse. Il y a eu des déclarations spectaculaires. Il y a eu des candidats un peu controversés. Donc, on va parler davantage d'eux. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que le dernier sondage ne leur a pas fait faire un rebond. Si je regarde le sondage léger, au contraire, perdu 2 points. Enfin, c'est dans la marge d'erreur, mais rien de
majeur. En termes
rien
de sièges, ça va peut-être pas se matérialiser en énormément de sièges. On verra. Ça va être quoi les grands thèmes de cette campagne-là, selon toi?
Bien, là, d'abord, évidemment, le bilan de la gestion de la COVID, la question de l'économie qui est toujours centrale. Hein? Là, il y a de l'inflation. Quelle est la situation économique? Il y a une sorte de plein emploi, en fait, la performance économique du Québec. Le nationalisme, c'est une carte que la CAQ veut jouer. Et toujours des thèmes qu'on peut essayer de prévoir, mais qui vont s'infiltrer dans la campagne au moment où on s'y attend.
Il va y avoir des surprises. Les autres partis, parce qu'il y en a qui disent que c'est très prévisible, on a les sondages qui donnent une victoire facile à la CAQ, mais c'est pas sûr. Une campagne peut toujours nous réserver des surprises. Est-ce que tu penses que cette campagne va être si ennuyante que ça?
Pas du tout. Au contraire, je pense que... écoute, chaque fois qu'on dit « Ah, on connaît le résultat », c'est pour ça qu'il y a des campagnes, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des accidents. Et donc, non, ce sera pas plate. Et faut pas lire le sondage d'aujourd'hui pour essayer de prévoir ce qui va arriver le 3 octobre.
Yves, tu vas être avec nous tout au long de la campagne. Ça va être le fun de vivre ça. À bientôt.
À bientôt.
Après des mois de scandales, ça bouge à la tête d'Hockey Canada. 3 jours après la démission du président du conseil d'administration, Michael Brind'Amour, on apprend qu'Andrea Skinner a été nommée présidente intérimaire du CA. L'avocate torontoise va assurer ce rôle à titre intérimaire. Elle devient la première femme à diriger Hockey Canada, mais elle débarque dans une organisation en crise, éclaboussée par les scandales sexuels. On va en parler avec Ray Lalonde, notre collaborateur. Bonsoir, Ray.
Salut, Étienne.
Bon, donc, c'est pas facile pour elle, évidemment. Elle était déjà un peu dans l'organisation, il faut dire, quand même, dans le membre du CA.
Bien, elle a un background de hockey. Elle a joué 4 années de hockey universitaire à Cornell, aux États-Unis. Oui. Elle est avocate de Toronto. Depuis 2020, membre du conseil. Donc, elle connaît les rouages, elle connaît les gens, les individus, Étienne, du côté administratif, comme les membres du conseil. Donc, ils ont sélectionné quelqu'un qui est dans l'entourage, qui baigne là-dedans déjà.
Mais on parle d'une organisation, justement, dont l'image est vraiment ternie au niveau de la population, au niveau des gouvernements, quand même, le gouvernement fédéral a coupé son financement. C'est quand même une étape importante pour redorer l'image d'avoir cette nomination-là?
Oui et non. Oui, c'est important de faire un changement. Le départ de Michael Brind'Amour, mais Michael Brind'Amour, c'est un responsable, un président du conseil d'administration. C'est quand même pas lui qui a pris les décisions au fil des années qui impliquent ce mauvais jugement-là puis le manque de confiance qu'on a en Hockey Canada. Alors, c'est remplacer une personne par une autre et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, comme individu au cours des prochains mois parce que le conseil se renouvelait en novembre.
Ah oui.
Michael Brind'Amour avait un poste qu'en novembre, mais là, ces nominations-là de Mme Skinner, c'est par intérim.
Oui, oui.
Donc, on ne sait pas ce que ça va donner après, mais pour le moment, je pense que c'est de garder le fort.
Parce que tu l'as souvent dit, il faut peut-être rebâtir à zéro Hockey Canada. Là, on prend quelqu'un qui était déjà membre de l'organisation. Est-ce qu'on rebâtit vraiment à zéro?
Je pense que oui, Étienne. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, à mon avis, puis je n'ai pas changé d'opinion. Oui. Non seulement les membres administratifs seniors qui étaient impliqués dans la gestion de Hockey Canada, l'équipe junior, par exemple, mais les gens qui étaient au courant plus proches. Tu sais, tu peux pas être impliqué, être au courant de tout ça en tant que membre d'une fédération de cette importance-là et garder le silence. Tu peux pas non plus pas être complice quand tu es au courant de certaines choses puis tu ne lèves pas la voix pour en parler, pour souligner ça. Alors, on est obligé de regarder les gens du conseil comme les gens de l'administration parce que comment peut-on penser qu'on a libéré des millions de dollars pour faire taire des victimes présumées en utilisant de l'argent liquide qui était dans les coffres de Hockey Canada sans que les membres du conseil le sachent?
Et jusqu'à maintenant, qui a été tenu imputable pour ces gestes-là?
Personne pour le moment. On tente de se défendre, on tente de dévier, on tente de un peu dissuader les gens, faire baisser un peu la pression et la température. Puis je vois ce geste-là. Bon, c'est un pas vers l'avant, mais c'est pas un gros pas, là. C'est beaucoup imbibé de relations publiques, de positionnement, à savoir, bien, on va remplacer un des visages par un autre. Comme ça, on donne l'impression aux gens au Canada qu'on est en train de faire le virage dans la bonne direction.
En terminant, ses premières actions à Mme Skinner, ça va être quoi?
Bien, c'est littéralement de tenir ce droit puis d'éviter les mauvaises situations en termes de relations publiques jusqu'à temps qu'on arrive en novembre puis jusqu'à temps que le dossier reprenne avec la ministre des Sports, Mme Saint-Denis.
Tenir le fort, mais ça n'a pas fini de brasser,
non.
Ce dossier-là. Ray, merci beaucoup.
Merci, Étienne.
À bientôt. Maintenant, devant les changements climatiques, l'heure est à l'adaptation. Et le Québec serait loin d'être prêt à faire face à ces perturbations. C'est une conclusion d'un rapport rédigé, entre autres, par le groupe de recherche scientifique Uranos. Ma collègue Anaïs s'y est intéressée.
Il n'y a pas assez d'indicateurs pour mesurer la capacité à s'adapter au changement climatique au Québec. On manque de connaissances, notamment sur l'évaluation des risques et la capacité à s'y adapter. Un exemple, eh bien, c'est l'érosion des berges qui représente un risque important, notamment pour l'Est du Québec. Le gouvernement pourrait devoir déplacer des populations entières, des villages aussi, mais il y a très peu d'études pour mesurer l'impact général d'un tel chantier.
Il y a une partie des changements climatiques qui sont devenus malheureusement inéluctables et donc l'adaptation doit être une priorité pour voir venir au minimum les 20-25 prochaines années. Là.
Plusieurs recherches le démontrent déjà, mais il va y avoir une intensification des incidents climatiques. On peut penser à la chaleur. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on peut s'attendre à ce que les températures augmentent de 3,5 degrés Celsius d'ici 2050 et jusqu'à 6 degrés Celsius d'ici 2080. Et non sans conséquence sur la santé humaine, mais aussi sur les incidences de sécheresse et de feux de forêt. On pense que la saison des feux pourrait augmenter de 10 à 20 jours d'ici 2050. Les bas débits d'eau, notamment dans le fleuve Saint-Laurent, pourraient causer des dégâts considérables, notamment parce que le fleuve Saint-Laurent approvisionne près du tiers de la population québécoise en eau potable. Les inondations vont être aussi plus fréquentes et ça a des conséquences financières également. En 2017, le gouvernement du Québec a dû débourser près de 360 millions de dollars en aide financière. Certains chercheurs rappellent qu'on va vivre la crise climatique surtout parce qu'il se vit à l'extérieur du Québec. On peut penser à la crise migratoire, comment par exemple on va accueillir les réfugiés climatiques et c'est loin d'être le seul enjeu.
De plus en plus, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par des sécheresses en Asie du Sud-Est où les semi-conducteurs qui ont besoin de beaucoup d'eau, qui sont produits dans des pays qui manquent d'eau, toutes sortes de trucs. Et là, on est en train de découvrir que les impacts des changements climatiques, ça va être pas mal plus compliqué qu'on l'avait imaginé.
Pour le moment, le gouvernement du Québec n'investit que 5 % de son budget à la lutte contre les changements climatiques, à l'adaptation. C'est une proportion qui devrait augmenter, croient certains chercheurs.
Il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble pour répondre à des enjeux, puis pas seulement des citoyens, là, tu sais, des citoyens avec des scientifiques, avec des décideurs. Moi, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant, honnêtement, de l'adaptation, là, la collaboration, puis c'est quelque chose qu'on met de l'avant comme une bonne pratique en adaptation.
L'adoption internationale a atteint un creux historique au Québec en plus de 30 ans. Moins de 50 enfants ont été adoptés l'an dernier dans la province, des chiffres qui confirment une lourde tendance à la baisse depuis une décennie. Si la crise sanitaire est évidemment pour beaucoup, bien, le contexte mondial a aussi bien changé depuis les années 90. Louis-Philippe Bourdeau explique.
Plus que jamais, l'adoption internationale, c'est un processus complexe, un processus qui est long. Il y a même des couples québécois qui sont en attente depuis plus de 6 ans pour réaliser leur rêve de fonder une famille. C'est le cas de Catherine Nadon et de son conjoint. En juillet 2016, les autorités des Philippines ont retenu leur dossier d'adoption et depuis, plus rien ou presque.
Les mois, on dirait qu'ils s'allongent. Hein? Plus on attend, plus chaque mois nous semble un peu plus long. Mais en même temps, plus ça fait de mois qu'on attend, on se dit plus on se rapproche. Les délais s'allongent dans tous les pays, donc on se sent un peu moins seul.
Il y a de nouvelles statistiques qui démontrent aussi à quel point le portrait a drastiquement changé au cours des 30 dernières années. Dans les années 90, il y avait jusqu'à 1000 enfants annuellement qui étaient adoptés dans la province. En 2021, le bilan était plutôt de 46 adoptions.
Le plus important, c'est que peut-être que 46 paraît être un petit chiffre. Le vécu de ces 46 enfants-là est très important.
C'est sûr que c'est des chiffres qui sont tristes. Et puis, les orphelinats ne se sont pas vidés d'enfants. Là. Mais quand on décide de s'ouvrir à l'adoption internationale, il faut s'ouvrir à encore plus de surprises et à différents aléas. Donc, il faut être très résilient et être prêt à plusieurs choses.
Il faut quand même préciser que ce déclin était entamé bien avant la crise sanitaire, principalement parce qu'il y a un nombre croissant de pays qui ont signé des conventions qui protègent les droits et le bien-être des enfants. On préconise maintenant le maintien du jeune dans sa famille biologique ou encore dans son pays d'origine.
Donc, quand l'enfant arrive à être disponible à l'adoption internationale, c'est comme un dernier recours. Il y a malheureusement trop de parents intéressés pour le nombre d'enfants disponibles, ce qui crée parfois de l'attente là, vraiment plus longue, encore plus longue qu'avant.
Est-ce qu'on se dirige un peu vers la fin de l'adoption internationale?
Je pense pas, parce que je pense qu'il va toujours avoir des enfants qui vont être en besoin d'une famille.
On peut évidemment pas l'écarter. La pandémie est venue, bien sûr, accélérer ce déclin. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières, les mesures sanitaires ont généré des délais de toutes sortes. Il est difficile de dire ce que nous réservera 2022.
C'est vraiment là, à géométrie variable actuellement ce qu'on voit là, au niveau de la pandémie. On voit une reprise dans la plupart des pays.
Notre agence n'a pas noté là, un nombre plus élevé là, ou une reprise plus élevée. Ce qu'on nous dit par contre, c'est que les gens sont à pied d'œuvre.
Au Canada et au Québec, bien, il y a des procédures administratives, d'études de dossiers, puis d'immigration qui complexifient la démarche et qui allongent les délais là, pour les parents en attente.
Dans ce contexte, il y a plusieurs intervenants qui réclament davantage de ressources, entre autres pour accélérer l'étude des dossiers, diminuer la paperasse, mais surtout développer de nouvelles ententes avec de nouveaux pays.
Les autorités ici, gouvernementales, ont une responsabilité face à ces enfants-là. Ça devrait être un dossier qui soit urgent à traiter.
Une page d'histoire est sur le point de se tourner au tennis féminin. La grande Serena Williams a annoncé qu'elle va prendre sa retraite dans quelques semaines. Elle n'a pas précisé la date, par contre. Lynn Pelletier, analyste tennis à RDS, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, Étienne.
C'est vraiment une figure importante qui s'en va. C'est quoi l'héritage là, de Serena Williams?
C'est une excellente question. Je pense que les deux sœurs Williams ont marqué l'histoire du jeu. Ça, c'est inévitable. Deux petites filles de Compton, en Californie, là où des gens meurent en raison des coups de feu qui se passent la nuit. D'ailleurs, une des sœurs de Serena qui a perdu la vie là-bas à Compton, qu'on réussisse avec peu de moyens au tout début à convaincre les meilleurs coachs de les appuyer dans leur quête, qu'elles soient toutes les deux alors que le papa brandit des cartons au début de la carrière des deux jeunes, qu'elles allaient être un jour numéro un, numéro deux au monde. Ce qu'elles ont réussi, Serena, 186 semaines de suite au premier rang mondial. Venus Williams, qui a été numéro un mondial. On gagne des grands chelems. C'est sûr que Serena a eu quatre chances, en fait, d'égaler Margaret Court pour avoir 24 titres grands chelems en simple, parce qu'elles en ont plusieurs en double. Elle a quatre médailles d'or olympiques également en simple et en double. Malheureusement, à la toute fin, ça devenait compliqué. C'est quelque chose qu'elle voulait trop, Serena Williams. Un peu plus cool du côté de Venus, mais à la fin de sa carrière, elle a pris justement son jeu, sa carrière moins au sérieux. Serena, c'était une mort de faim, Étienne. C'est une fille qui fonctionnait sur le courage et sur la rage en même temps. Et à la toute fin de sa carrière, ça lui a coûté cher. Ben mais je pense que deux jeunes dames très, très pauvres qui proviennent d'un milieu défavorisé, qui réussissent à engager toutes les jeunes de race noire à pratiquer un tennis.
On voit que vous en parlez passionnément. Vous en parlez passionnément, mais les derniers, c'est ça, les dernières années de Serena n'ont pas été faciles. Là, les classiques 407e, est-ce qu'elle aurait dû peut-être justement prendre sa retraite plus tôt? Question de partir au sommet?
Mais c'est une bonne question, mais en même temps, elle voulait tellement atteindre le 24e Grand Chelem pour égaler Margaret. Ça devenait difficile à arrêter. Le seul problème, ça a été dans sa façon de gérer les émotions qu'elle vivait à ce moment-là. C'est là où elle a appris beaucoup. Mais tu sais, quelquefois dans la vie, on a des objectifs, on n'arrive pas à les atteindre, mais on apprend tellement dans notre quête alors qu'on va d'échec en échec, comme ça a été le cas de Serena lors de ses quatre dernières finales, que maintenant, je pense qu'elle va avoir une importance encore plus grande dans la société. Et là, je m'explique. Serena est vraiment réussie. Maintenant, elle est investie dans toutes sortes de compagnies. Elle veut aider les dames défavorisées à aller plus loin dans leur compagnie. Elle veut aider les jeunes filles qui n'ont pas d'argent à jouer au tennis. Et elle a déjà une fondation en Afrique pour aider les jeunes noirs également.
Il n'y a pas de doute qu'elle a ouvert la voie à une joueuse authentique, malgré quelques controverses, mais vraiment très inspirante. Bien, vous nous en avez fait un bel hommage aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, Hélène Pelletier.
Ça me fait plaisir, Étienne. Au revoir.
À bientôt. Scène culturelle maintenant. Le phénomène planétaire Notre-Dame de Paris est de retour dans la métropole. La comédie musicale est présentée dès ce soir à la Place des Arts à Montréal. Ma collègue Fanny Lachance-Paquette est sur place. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Étienne.
La popularité là, de la comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cochiante ne se dément pas, hein?
Non, parce qu'il y a encore plusieurs soirs où on affiche complet et on est au tout début de cette tournée canadienne. Notre-Dame de Paris s'est présentée depuis 1998, alors on en est déjà à la 24e année de présentation. Et c'est un succès mondial, tu le disais, ça a été présenté dans 24 pays, traduit dans 10 langues. Il y a 15 millions de spectateurs qui ont vu le spectacle à travers le monde. Et ce qui est particulier avec cette tournée canadienne, bien, c'est qu'on retrouve deux vétérans, deux personnes qui étaient là en 1998. Daniel Lavoie, qui a fait plusieurs spectacles tout au fil des ans, mais Bruno Pelletier, pour qui c'est un retour cette fois-ci. Alors, des vétérans, mais aussi des nouveaux talents québécois. C'est le cas d'Emma Lépine, 21 ans, originaire de Chicoutimi, qui, elle, incarne Fleur de Lys depuis 2021. Je l'ai rencontrée cet après-midi à quelques heures là, de cette première en sol québécois et elle avait particulièrement hâte de pouvoir présenter enfin son rôle ici aux gens de sa famille et ses amis. Emma Lépine, la nouvelle Fleur de Lys de cette nouvelle distribution de Notre-Dame de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Donc, de la production depuis 2019, il y a eu évidemment la pandémie. Donc, tu fais partie des spectacles depuis la fin 2021, notamment avec la tournée en Asie, New York il y a quelques semaines. Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
Disons que c'est sans cesse du nouveau dans ma vie. Pour vrai, j'aurais jamais pensé aller faire le tour du monde aussi jeune que 21 ans. J'ai fêté même mes 21 ans à Paris en faisant les répétitions avant de partir. Alors pour moi, c'est, j'ai développé encore plus une grosse envie de continuer à voyager. Les gens sont tellement différents, tu connais plein de cultures différentes. À chaque fois que tu les rencontres aussi, j'adore rencontrer les gens à la fin, c'est magnifique.
Puis l'accueil, il est comment un peu partout sur la planète?
Bien, l'accueil est vraiment complètement différent. Là. On voit la culture. Vraiment, en Asie, c'est, ça applaudit pas beaucoup pendant le spectacle, mais ça va être très, très gros après. Puis la culture ici, c'est vraiment, t'applaudis beaucoup, beaucoup pendant, puis il y a moins après. C'est complètement différent, mais c'est aussi beau, t'sais.
Et avais-tu toujours été une fan de Notre-Dame de Paris? Parce que ça fait quand même 24 ans là, que ça existe, même avant ta naissance.
Bien, moi, en fait, j'étais une très grande fan de tout ce qui est comme Notre-Dame de Paris, Starmania, le travail de Luc Plamondon, surtout. Alors, Notre-Dame de Paris, je connaissais déjà tous avant, puis j'étais une très grande fan. J'avais écouté un peu la vidéo sur YouTube aussi, donc j'avais tout déjà Disons que je suivais ça de très proche.
Et là, ce qui est particulier pour cette tournée-ci, particulièrement pour la tournée canadienne, c'est que Bruno Pelletier s'est joint à la distribution. Daniel Lavoie aussi qui est là. Qu'est-ce que c'est de jouer avec ces vétérans-là?
Bien, en fait, c'est que tu te rends compte que c'est tellement plus naturel que tu le pensais parce que ces personnes-là sont vraies, tu sais. C'est facile de parler avec eux. Ils t'enseignent des choses sans arrêt juste quand ils te parlent. Puis c'est naturel chez eux de vouloir donner, tu sais. C'est ça qui est beau.
Est-ce que c'est l'expérience d'une vie d'être le fleur de lys dans Notre-Dame de Paris?
Oui, complètement. C'est plus grand que nature. Puis à chaque jour, je remercie la vie de me donner cette expérience-là qui me donne quasiment plus que je pensais que ça allait me donner.
Bien, Emma Lépine, on te souhaite une excellente tournée canadienne.
Merci.
Merde pour ce soir.
Merci, c'est très gentil.
Et Fanny, toi, tu vas citer à la première ce soir et t'en parleras au fil 22h. On a hâte de voir ça. Bon spectacle! Et c'est Sabrina qui est à la barre du 22h ce soir. Salut!
Eh oui, salut!
Merci d'être là. Bon, d'abord, agresseur sexuel activement recherché par les policiers.
Oui, il s'appelle Vincent Daigle et il s'est enfui de la maison de thérapie de Longueuil, en fait, où il habitait. Donc, il venait tout juste d'être remis en liberté conditionnelle. C'est un homme de 31 ans, en fait, qui est originaire de Lévis, qui a plaidé coupable, entre autres, d'agression sexuelle sur deux hommes rencontrés sur Internet. Il devait retourner devant le tribunal au mois de novembre pour savoir quelle peine il allait purger.
On change maintenant complètement de registre. Mais Roger Federer, donc, joueur de tennis très connu, qui tient une promesse faite en 2017 à un enfant.
2017, oui, c'est super cute, en fait, cette histoire-là. Il y avait, à cette époque-là, un petit enfant qui était surnommé Zizou. Ah, oui. Et là, Zizou assistait à une conférence de presse et il avait eu la chance de poser des questions à son idole, qui était Roger Federer. Et un moment donné, il avait dit, si je me pratique un petit peu, est-ce que tu penses que dans un avenir approché, on va être en mesure de jouer ensemble? Eh bien là, promesse tenue, ah oui. Roger Federer, dans les dernières heures, dans les derniers jours, a dit « Zizou, nous allons jouer ensemble ». Alors, ils ont joué un petit match amical, vous voyez, sur les images.
De belles images.
Hyper mignon. Puis ce soir, au fil 22h, on va revenir notamment sur la COVID-19.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Sabrina. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain. À demain.